Tout un arrière-coup déjà vu. Les nuits sont noires, tout le monde t'a abandonné, même la lune. Mais la fin du désert se cache peut-être derrière chaque dune. Tout va s'arranger. C'est faux, je sais que tu sais. Des fois je saurais plus trop quoi dire, mais je pourrais toujours écouter. Tout va pas changer, enfin sauf si tu le fais. Quand t'as le désert à traverser, y'a rien à faire sauf d'avancer. Rien à faire sauf d'avancer. On en rira quand on le verra sous un jour meilleur, jour meilleur, jour meilleur. On en rira quand on le verra sous un jour meilleur, jour meilleur, jour meilleur, jour meilleur. Comme dans toutes les chansons de Paris, tous les meufs sont partis. Comme dans tous les morceaux de rap où tous tes potes t'ont trahi. Des fois t'as besoin de soutien, des fois t'as besoin d'un ami. Des fois t'as besoin d'avoir la haine, des fois t'as besoin d'un ennemi. En vrai, tu peux pas tout contrôler, faut que tu l'acceptes. Être heureux c'est comme le reste, faut d'abord apprendre à l'être. Je sais, tu vas te coucher en disant demain je le fais. Tu te réveilles en disant demain je le fais. Mon ami, laisse-moi dire deux trois conneries avant que t'en fasses une. Le problème de la vie c'est qu'il y en a qu'une. On soignera jamais la dépression comme on soigne un rhume. Mais dis-toi que tu pourras compter sur moi le temps que ça dure. Allergique à la vie, les matins sont obscurs. Comme tout un arrière-coup déjà vu. Les nuits sont noires, tout le monde t'a abandonné, même la lune. Mais la fin du désert se cache peut-être derrière chaque dune. Tout va s'arranger. C'est faux, je sais que tu sais. Des fois je saurais plus trop quoi dire, mais je pourrais toujours écouter. Tout va pas changer, enfin sauf si tu le fais. Quand t'as le désert à traverser, y'a rien à faire sauf d'avancer. Rien à faire sauf d'avancer. On en rira quand on le verra sous un jour meilleur, jour meilleur, jour meilleur. On en rira quand on le verra sous un jour meilleur, jour meilleur, jour meilleur, jour meilleur.
Radio Chablais, 23h. Radio Chablais, suivez-nous, on vous suit. Bonne nuit sur Radio Chablais.
C'est chaud, c'est chaud. Sur le grill.
Un chef papou qui vient du côté de Lézin, c'est ce qu'on vous propose justement comme thématique. C'est le 1er mai prochain. Stéphanie Dervet, Nicole Gromeau, bonjour, bienvenue.
Bonjour.
Alors, vous organisez cette soirée. Déjà, juste nous expliquer qu'est-ce qui va se passer, pourquoi il y a un chef papou qui débarque sur les hauts de Lézin.
Eh ben en fait, je voulais juste acheter les livres qu'ils ont sortis avec le réalisateur Marc Dezier.
Ouais.
Et puis du coup, ils sont introuvables, je l'ai eu au téléphone et puis il m'a parlé de ses projections rencontres et puis qu'il était ouvert à venir en Suisse. Et puis je me suis dit, mais il faut faire ça.
Simplement.
Voilà.
Le délire, il part de là, c'est qu'en plus, bah, vous avez une librairie, hein, Stéphanie Dervet, justement, à Lézin. Alors, juste pour placer le contexte, Marc Dezier, donc le réalisateur, c'est qui? Qu'est-ce qu'il fait?
En fait, il est photographe et puis il réalise des documentaires qui sont principalement axés sur la Papouasie-Nouvelle-Guinée et puis qui sont à but écologique pour montrer la situation sur la déforestation. Et puis, il travaille principalement avec Munditje Kepanga, qui est le chef papou de la tribu des Ouli, qui vient parler de son engagement pour protéger la forêt.
Alors ça, ce sera donc ce 1er mai. Nicole Gromeau, dites-nous un petit peu, c'est où, c'est quoi, c'est comment, c'est quel horaire, qu'est-ce qui va se passer?
Alors en fait, ce sera donc le 1er mai à Lézin,
à la Lézin American School,
exactement, donc dans leur salle de gym, à 19h30, et c'est vraiment une projection rencontre, donc Marc Dezier et le chef papou, ils seront là et on pourra échanger avec eux.
On va donc pouvoir voir le film.
Tout à fait, voir le film.
Voir la situation, hein, vraiment, comment ça se passe actuellement en Papouasie et Nouvelle-Guinée. Pourquoi ce chef papou, justement, vient à la rencontre, échanger, discuter et passer un moment vraiment pour comprendre, on va dire, l'univers que vit ce chef papou et comprendre ce film. C'est un peu ça.
Eh ben, en fait, c'est la suite du premier film, le Frère des Arbres. Et puis ça s'appelle Le Temps des Solutions parce qu'il présente les solutions, justement, qu'ils ont trouvées en Papouasie-Nouvelle-Guinée pour préserver la forêt, ce qu'ils proposent.
C'est-à-dire
que, ben, ils plantent des forêts qui sont destinées à être coupées pour vendre du bois au lieu de déforester des forêts ancestrales.
Ok. Donc, on propose en fait des solutions pour justement limiter l'impact et limiter surtout la déforestation.
Voilà. Puis c'est pour ça que c'est aussi les en transition qui va financer la projection parce que justement, ils sont engagés au niveau du film vert pour présenter des solutions écologiques.
Et donc, pour s'inscrire, le site internet
lesaintransition.ch et il n'y a pas besoin de s'inscrire, c'est gratuit,
on
venez
vient,
librement.
Les informations, elles sont sur le site. On
voilà,
se fait plaisir.
Exactement.
Et Stéphanie Dervais, vous lui direz un dernier petit mot.
Oui, on voudrait vraiment remercier l'American School parce que c'est eux qui hébergent l'événement et puis ils ont mis à disposition tout ce qu'on aura besoin. Et puis vraiment un grand merci à eux.
Et puis on rappelle,
de rendre ça possible.
C'est donc le 1er mai à 19h30 à la Les American School. Et nous, d'ici quelques instants, après une pause musicale, on va justement écouter le réalisateur Marc Dozier. Merci mesdames.
Merci.
Merci. C'est chaud.
Sur le grill.
Oh, retrouvez vos rendez-vous quotidiens durant la nuit.
C'est chaud. Sur le grill.
Gardien de la forêt, le temps des solutions, c'est cette conférence proposée à la Lesin American School, on le rappelle, ce 1er mai à 19h30. C'est le chef papou Mounia Kepanga qui sera présent. Marc Dozier, bonjour.
Bonjour.
Vous accompagnez ce chef papou. Déjà juste, nous présenter qui est ce chef papou et après il faut qu'on parle aussi de vous.
Alors ce chef papou, Moujigé Kepanga, c'est un chef coutumier traditionnel de Papouasie-Nouvelle-Guinée qui est devenu d'une certaine façon une voix des peuples autochtones et qui lutte contre la déforestation et qui vient à travers ce film Gardien de la forêt, nous parler de la question de la forêt, du réchauffement climatique avec des mots très simples qui nous touchent tous.
Ouais, et puis qui le touche lui particulièrement, les peuples autochtones énormément touchés, hein, que ce soit en Papouasie bien sûr, mais partout ailleurs, par la déforestation. Cette problématique, il va l'amener. Cette problématique, vous la connaissez aussi très bien, Marc Dozier, parce que vous êtes carrément quasiment papou, vous.
Bon, pas tout à fait, mais moi je suis français, pour tout vous dire. Je suis français et évidemment je suis un fou des papous, c'est comme ça que je me définis. Ça fait plus de 30 ans maintenant que je voyage à travers la Papouasie-Nouvelle-Guinée et je suis ami avec ce chef papou, Mounia Kepanga, depuis plus de 25 ans. Je suis son parcours, sa trajectoire de vie exceptionnelle, puisqu'il n'était pas destiné à voyager à travers le monde, mais suite à notre rencontre il y a plus de 20 ans maintenant, c'est vrai que ce chef papou a eu l'occasion d'aller à l'UNESCO, de rencontrer des personnalités, Robert Redford, le prince Albert de Monaco, pour plaider cette cause des forêts primaires et de la protection de l'environnement, sachant que, évidemment, lui, il considère que, en tant que chef papou, sa mission, c'est de protéger ses forêts primaires, mais son message, c'est de nous dire que nous tous, chacun d'entre nous, a un rôle à jouer à notre niveau, dans notre jardin, notre ville, notre village, en Suisse, en France. Bref, chacun a un rôle à jouer pour qu'on continue à vivre sur cette planète.
Et justement, ce thème de ce film, hein, Gardien de la forêt, le temps des solutions, quand on entend le temps des solutions, est-ce que solution il y a et comment ça se passe ?
Oui, dans ce film qui a été réalisé pour Arte, on expose les solutions concrètes qui sont mises en œuvre en Papouasie-Nouvelle-Guinée. Et des solutions, il y en a un certain nombre en fait. Mais d'abord, il faut qu'il y ait une vraie volonté politique et c'est le postulat de départ du film. S'il y a une volonté politique, il y a des solutions qui peuvent être mises en œuvre pour protéger les forêts. Alors il y en a un certain nombre, je ne vais pas toutes les révéler parce qu'il faut bien découvrir le film.
Bah, c'est le but.
Mais bien sûr, mais il y a des projets d'agroforesterie par exemple. Il y a des projets aussi de forêts secondaires, ça paraît étonnant, mais en fait, planter des arbres et couper ces arbres 50 ans plus tard pour les replanter comme une exploitation, entre guillemets, forestière, ça permet de protéger la forêt primaire. Donc ça fait partie des solutions qui sont exposées dans le film. Et si je peux me permettre de partager avec vous son ressenti ou la façon dont il a l'impression qu'il est accueilli, je crois qu'il a toujours l'impression qu'il est d'abord écouté, parce que c'est vrai, on écoute, hein, il y a toujours beaucoup, beaucoup de monde à ses rencontres et aux projections. Donc il a l'impression qu'il est écouté. Et puis ensuite, lui, il est très à l'aise. C'est quelqu'un de très charismatique, de très drôle aussi. Donc quand il est en public, il fait passer ses messages, souvent avec des phrases qui sont fortes, qui nous touchent, qui vont nous émouvoir, mais en même temps avec des formules qui sont très drôles, parce qu'il nous fait réfléchir aussi sur nous-mêmes, sur le sens de nos sociétés de façon plus large, et puis sur l'importance de préserver la nature de façon aussi un peu large.
Merci Marc Dozier. On rappelle donc cette projection conférence les gardiens de la forêt, le temps des solutions avec le chef papou Mundia Kepanga. C'est un moment d'exception à vivre à Lézin, à la Lézin American School, ce 1er mai à 19h30. Toutes les infos alvaudoise.ch ou lézinentransition.ch. Marc Dozier, merci beaucoup.
Merci beaucoup. Au
1er mai.
Merci. Au revoir.
Au revoir, merci.
Sur le grill.
Radio Chablais, programme de nuit.
Dorena.
Radio Chablais.
Le nombril du monde.
Le nombril du monde.
Bienvenue chez nous.
C'est plus grand que ce que je croyais.
Le nombril du monde. C'est Dorena. Ça souffle un petit peu, c'est normal. C'est normal dans la région. On se trouve devant la maison des contes. Ma très chère guide Yasmine.
Oui, pour moi, c'est facile à trouver. C'est la maison certainement la plus colorée de Dorena avec ses deux fresques de contes et légendes dessus. C'est aussi parmi les plus vieilles maisons de Dorena. Hein.
Ah ouais,
je crois qu'elle a été construite en 1870. C'était une maison avec une écurie dessous. Et puis, dans les années 1990, fin des années 1990, Béatrice Dayère, qui était la propriétaire, elle reçoit cette maison en héritage. Puis elle décide non pas de l'habiter, mais elle était passionnée par les contes et légendes. Et elle voulait en faire un lieu pour les contes et légendes d'Outre-Rhône, pour ce patrimoine valaisan. Et même au-delà, le long du Rhône, patrimoine oral. Donc elle a fait la maison des contes et légendes. Il y avait beaucoup de conteurs. Petit à petit aussi, ça a essaimé un peu dans tout le Valais et ailleurs. Et puis, elle a continué à faire vivre. Et aujourd'hui, c'est une maison qui est dédiée plutôt à tout ce qui est patrimoine oral et patrimoine historique, des histoires des Alpes, quoi.
Ah, ça tombe bien, parce que c'est justement de ça dont je veux qu'on parle, de l'histoire de ce petit coin de paradis. Je crois savoir qu'ici, vous cassez un petit peu le caillou. Il y a une histoire d'ardoise. D'ailleurs, les toits des maisons environnantes, qui sont toutes anciennes, sont en ardoise.
Effectivement, on a actuellement une exposition cette année et depuis une année sur l'histoire des carrières d'ardoise de Dorena. Aujourd'hui, quand tu vois le village, mais c'est un joli village, il y a 1200 habitants, une petite activité artisanale.
Bon, le micro, il a coupé parce qu'il n'y avait plus de piles, on a dû changer les piles. On reprend. Oui, ça a coupé de manière abrupte, c'est normal. Donc, l'exposition sur les carriérans, parce que ici, oh mon Dieu, on a une image juste devant la maison des contes et légendes, avec un vieux train de mine, en fait, avec des petits rails, un bout de train de mine. Et il y a une image magnifique avec deux monsieur avec un béret qui apparemment, il travaillait pas avec de la farine.
Non, effectivement, ici devant la maison, on a reconstitué un rail et puis un fond de wagon des mines d'anthracite. Parce qu'à Dorena, il y avait à la fois les mines d'anthracite, donc ce qui faisait le charbon, hein, et puis les carrières d'ardoise qui étaient un petit peu plus tardives, C'était d'abord les carrières d'ardoise.
Ouais, tardives.
voilà. Donc, les carrières d'ardoise, ici, on trouve des filons, elles ont commencé à hauteur d'Alès. C'était les premiers filons là, et puis je dirais entre Dorena et Alès. Ça a été exploité depuis 1830 jusqu'en 1960.
Ah quand même, jusqu'à relativement tard.
Ouais, relativement tard. Après, il y a eu d'autres métaux.
D'autres matériaux,
et puis surtout une façon d'extraire qui était beaucoup moins pénible. Parce que l'ardoise, d'abord, c'était à ciel ouvert, et puis il suivait le filon d'ardoise et s'enfonçait dans la montagne. Il travaillait en deux équipes. Il y avait l'équipe qui était à l'intérieur, qui creusait le filon, qui découpait les premiers carrés, qui les sortait. Puis à l'extérieur, il y avait une équipe qui taillait l'ardoise déjà dans les 5-6 façons de tailler l'ardoise. Et après, il les descendait à Dorena. D'abord, c'est incroyable, mais sur des grosses luges en bois, il y avait 400 kilos. Et une personne, elle freinait, puis elle tirait cette luge en bois avec des patins. Et puis après, avec un câble, il est descendu à Dorena. Puis là, elles étaient vendues. Elles partaient ici à Dorena, à côté de la Maison des Comptes. On a différents toits. On voit toutes les sortes d'ardoises, hein, des ardoises moins taillées, des ardoises plus taillées. Mais elles partaient dans toute la Suisse romande aussi. Ça s'est développé dans les villes à cause des incendies. 1850, des incendies à Lausanne, les toits recouverts de bois, le feu va plus vite.
Donc, et il passait d'un appartement, enfin d'un édifice à l'autre.
Voilà, et donc du coup, en mettant de la pierre sur les toits, ça freinait la vitesse de l'incendie. Donc voilà comment. C'était un métier qui était pénible, qui a fait vivre quand même passablement de familles. Mais je dirais, il y a toujours deux côtés. Donc ils gagnaient bien leur vie, ceux qui avaient les carrières d'ados, ceux qui y travaillaient. Puis l'autre côté, ils payaient aussi un lourd tribut. Il y a eu des morts avec la manipulation de la poudre noire pour faire exploser les accidents de chantier. Et puis aussi la maladie à Dorena, que ce soit à cause des carrières d'anthracite ou des mines d'ardoise, il y a eu beaucoup de gens qui sont décédés de la silicose, cette maladie pulmonaire.
La maladie du mineur.
Exactement, la maladie du mineur, ouais.
Bon, un petit hommage à tous ces carriérants. C'est déjà quoi le sobriquet pour les gens de Dorena?
Les diablerins.
Les diablerins. Un hommage à tous ces diablerins.
Et puis une visite à faire à la maison des contes et légendes, bien sûr, à Dorena.
Bonne nuit sur Radio Chablais.
La question improbable.
Pourquoi les pizzas rondes, on les met dans des boîtes carrées et on les coupe en triangles ?
Sur Radio Chablais.
Alors, aujourd'hui, même si on n'est que mardi matin, l'heure est au festoiement. Ce week-end, je suis partie voir ma famille et pour célébrer nos retrouvailles, on a trinqué ensemble. Et là, c'est la cacophonie de superstitions. Faut regarder dans les yeux, faut surtout pas croiser. Les couples trinquent entre eux en dernier, etc., etc. Et ça m'a fait me poser la question, pourquoi c'est si important de se regarder dans les yeux quand on trinque? D'où vient cette pratique? Alors je me doutais un peu de la réponse et mes petites recherches ont confirmé ce que je pensais. En fait, au Moyen-Âge, c'était principalement les personnes de haut rang qui se retrouvaient à ces festivités et comme leur titre venait avec pas mal de jalousie autour, tout le monde se méfiait de tout le monde. Alors bonjour l'ambiance, hein. Et à l'époque, ils aimaient pas mal faire la guerre et l'arme qui faisait le plus fureur, c'était le poison. Donc ils ont instauré une règle tacite, c'est trinquer. Et à l'époque, les verres n'étaient pas faits de verre, hein, ils étaient beaucoup plus solides. Et quand on trinquait, on faisait entrechoquer les verres avec pas mal de force pour envoyer des gouttes de son breuvage dans celui de son voisin afin de mélanger les boissons. Et évidemment, il fallait trinquer en se fixant droit dans les yeux. Pourquoi ? Eh ben, tout simplement parce que ça permettait de déceler si son compagnon de boisson était stressé, apeuré ou en confiance. En gros, ça permettait de vérifier les intentions de ses invités. Et le premier qui détournait le regard était pris en flag. Ça voulait dire qu'il avait empoisonné le verre de son voisin et qu'il voulait vérifier qu'aucune goutte ne tombe dans son propre verre. Évidemment, maintenant, c'est plus le cas. Normalement, on n'empoisonne pas la personne avec qui on boit. On invente du coup pas mal de choses du style « Si tu regardes pas dans les yeux, tu vas avoir 7 ans de malchance !» juste pour perdurer une tradition dont l'origine nous échappe pour certains. Moi, j'ai voulu prouver ma théorie du trinquage. Je sais pas si ça dit, mais ça se dit sûrement pas, mais j'invente un mot. Donc, j'ai voulu prouver cette théorie et j'ai fait entrechoquer mon verre avec celui de ma sœur. Résultat, 2 verres pétés, du champagne gâché et des parents pas contents. Moralité, on va y aller mollo quand on trinque. Et si vous regardez pas dans les yeux, même si c'est pas poli, regardez au moins ce que vous faites avec votre verre pour pas l'exploser sur celui d'en face. Voilà, voilà.
La question improbable.
Pourquoi les pizzas rondes, on les met dans des boîtes carrées et on les coupe en triangles?
Sur Radio Chablais, retrouvez vos rendez-vous quotidiens durant la nuit.
La question...
Pardon?
Tu dis quoi?
Sur Radio Chablais.
Alors, on va rester dans la vibe du festoiement, vu que le thème de cette émission, c'est le festoiement, la fête. Et logiquement, après les festivités, beaucoup d'entre nous se réveillent le lendemain avec la gueule de bois. Et j'ai envie de passer cette chanson de Charles Aznavour qui résume pas mal cet état d'esprit.
Où as-tu mal? Pourquoi as-tu mal? T'as mal à la tête, mais bois un peu moins aujourd'hui, tu boiras plus demain et encore plus après-demain.
C'est assez vrai en fait tout ça, hein. C'était les deux guitares de Charles Aznavour. Et donc ça m'a donné envie de décortiquer cette expression gueule de bois. Pourquoi le bois? Pourquoi juste la gueule, hein, même quand le reste du corps ne suit pas? Alors Apparemment, l'origine de cette expression pourrait trouver ses racines ou son explication dans la poésie. En fait, le mot gueule, ça vient du latin gula, qui veut aussi dire gosier ou gorge. Et le bois, ben, vu que sa texture peut être qualifiée de rêche et âpre, ça ferait référence à cette sensation de bouche sèche, de gorge qui pique à cause de la déshydratation, comme si elle était faite en bois. Donc pour tous ceux et celles qui ont déjà vécu un lendemain de soirée trop arrosée, je suis sûre que ça vous parle. Moi, je trouve que l'expression est très bien choisie. Ceci étant dit, il me semble important de rappeler à l'antenne que l'apéro, c'est sacré, il faut en profiter, mais toujours avec modération. Souvenez-vous-en la prochaine fois que vous prendrez le vin de l'étrier. Ce qui me fait penser à cette question que je vous ai posée pour tenter de gagner les deux entrées pour le plus grand dance floor du Valais. Eh bien, le tirage au sort se fait tout de suite, donc résultat dans quelques minutes.
La question...
Pardon ?
Tu dis quoi ?
Sur Radio Chablais. Radio Chablais. Programme de nuit suit.
Voici les titres du journal.
Les retards dans la troisième correction du Rhône interpellent des députés du district d'Aigle au Grand Conseil vaudois. Un texte porté par Grégory Devaux sommant le Conseil d'État à accélérer le processus a été déposé mardi passé. Vaux souhaite atteindre un équilibre électrique d'ici 2035. Il devra pour ce faire poser près de 6000 mètres carrés de panneaux photovoltaïques par an sur ses bâtiments. À Saint-Maurice, les forts du C et du Saint-Dé sont peut-être condamnés. L'un est déjà fermé au public et l'autre pourrait suivre, à moins de trouver des fonds pour des travaux de remise aux normes. La commission de la concurrence n'a pas chômé en 2023. La Comco a présenté son bilan ce matin à Berne, tout en présentant deux décisions majeures.
Pour la météo, un temps en partie ensoleillé pour ce mardi. Pour demain, on débute le mois de mai sous les nuages. Météo complète à la fin de ce journal. Un journal qui nous est présenté par Guillaume Abbé. Bonjour Guillaume.
Bonjour Axel, bonjour tout le monde. Les retards de la troisième correction du Rhône inquiètent les députés du district d'Aigle au Grand Conseil vaudois. Par la voix du syndic Aiglon, Grégory Devaux, un texte a été déposé mardi passé. Il est mentionné que les délais largement pas respectés de Rhône 3 pourraient engendrer certaines conséquences liées au développement économique de la région. Les explications de Grégory Devaux, député au Grand Conseil vaudois et syndic d'Aigle.
Alors concrètement, on est sur une résolution. L'objectif est de pouvoir mobiliser le Grand Conseil envers le Conseil d'État pour lui demander et souhaiter finalement qu'il puisse mettre tout en œuvre pour que le projet de troisième correction du Rhône avance. On a des signaux assez négatifs du côté du Coton du Valais. Il y a des enjeux d'importance pour l'ensemble du Chablais, pas que pour la sécurisation de la zone industrielle d'Aigle, mais pour la protection des crues envers la population, envers les biens, mais aussi avec des enjeux connexes, par exemple des mesures d'agglomération ou encore du palier hydroélectrique de Massonger.
Plusieurs autorisations de construire demeurent en effet bloquées dans les zones concernées pour les futurs travaux. Des projets de passerelles entre Vaux et Valais prévus dans le cadre de Chablais-Aglo sont également au point mort. Les détails de Grégory Devaux.
Concrètement, on a aujourd'hui des mesures de précaution qui sont appliquées à la zone d'activité d'Aigle, notamment l'impossibilité de délivrer certains permis de construire dans une partie de la zone, hein, qui est largement bâtie, donc c'est pas un énorme problème, si j'ose dire, en termes d'implantation d'entreprise, mais quand même quelques terrains qui pourraient se développer, respectivement une flexibilité de certaines entreprises à pouvoir reconstruire une halle, reconstruire, agrandir peut-être un espace. Donc ça, c'est un point très concret. Et puis l'autre point préoccupant, je pense, c'est que on a des projets de passerelles sur le Rhône, de franchissement, de ponts pour le ferroviaire ou pour les transports publics. Il faut qu'on puisse se prémunir de ça et puis concrétiser un projet qui a été largement étudié ces dernières années.
Ce texte déposé mardi dernier sera débattu aujourd'hui lors de la séance hebdomadaire du Grand Conseil vaudois, un sujet de Ludovic Turin.
Vaux a dévoilé hier les résultats d'une étude menée sur le potentiel solaire de ses bâtiments cantonaux.
S'il souhaite atteindre une autonomie électrique d'ici 2035, comme prévu dans le plan climat, il lui faudra poser près de 100 000 m² de panneaux photovoltaïques, soit l'équivalent de 16 terrains de football. Le plan d'action ne porte d'ailleurs pas uniquement sur la pose de ces panneaux, mais sur plusieurs points. Pierre D. Almeida, directeur général de la Direction générale des immeubles et du patrimoine.
Poser des panneaux photovoltaïques, environ 6000 m² par année si on veut atteindre l'objectif autonomie électrique en 2035. Ensuite, un meilleur monitoring, c'est-à-dire que dans les bâtiments, on va avoir des éléments qui nous permettent de suivre la consommation d'énergie en temps réel. Puis le troisième, c'est évidemment faire des économies d'énergie, donc changer les éléments d'éclairage en LED. Un quatrième point, c'est aussi dire aux utilisateurs de consommer moins d'énergie, éteindre les ordinateurs quand ils sortent du bureau. C'est un plan global, et si on veut atteindre cet objectif qui est quand même assez ambitieux, eh bien effectivement, il faut aller sur plusieurs fronts. Autrement, on n'y parviendra pas. Mais si on le fait, on y arrivera dans les délais qui sont donnés par le Conseil d'État.
Des propos recueillis par Léa Journaux. À noter encore que l'Université de Lausanne et le CHUV établissent également une évaluation de leur potentiel photovoltaïque. L'épisode de gel de printemps modéré devrait avoir un impact marginal sur l'agriculture en Valais. Des températures négatives avaient localement été mesurées dès le matin du 19 avril dernier dans la plaine du Rhône. Pour le secteur des fruits et légumes, aucun ravage significatif n'a été signalé. En viticulture, des dégâts importants ont été constatés dans les zones historiquement connues pour être sensibles au gel. En revanche, le coteau a largement été préservé.
Les fortifications de Saint-Maurice ont un pied dans la tombe.
Les forts du C et du Saint-Dé, situés à l'intérieur de la falaise surplombant la cité agonoise, sont confrontés à plusieurs problèmes qui pourraient entraîner à terme leur fermeture définitive. D'abord, les deux téléphériques servant à acheminer le matériel et les guides ne sont plus aux normes et le coût de leur transformation avoisine le million de francs chacun. De plus, la prise d'eau servant à l'alimentation des forts est bouchée. Pour l'heure, la fondation Forteresse Historique, propriétaire des lieux, a opté pour une fermeture du C en attendant de trouver une solution plus pérenne, sachant que la demande existe puisque le fort de Dailly à Morcle a trouvé son public. Serge Monnerat, président de la Fondation Forteresse Historique.
Vous voyez, la route de Dailly qui nous y mène, vous l'avez faite, c'est pas du tout un frein. Les gens, aujourd'hui, ils veulent arriver avec leur voiture le plus proche possible et visiter immédiatement. Ils sont prêts à mettre plus d'argent. On voit pour d'autres forts, le prix de l'entrée ne les rebute pas. Les gens veulent pas faire, c'est faire 2 heures de marche pour aller visiter un fort. C'est que des passionnés qu'on arrivera à faire venir. Non, je pense qu'il faut investir maintenant. C'est la seule solution.
Des propos recueillis par Valérie Favre. Et si vous souhaitez découvrir une partie de l'aspect patrimonial des fortifications agonoises, rendez-vous jeudi après-midi dans le MAG. La possession, la culture et la vente de cannabis devraient être libéralisées en Suisse. Un comité citoyen a lancé une initiative populaire en ce sens, annonce aujourd'hui la chancellerie fédérale. Le texte devra réunir au moins 100 000 paraphes d'ici le 30 octobre 2025. L'économie suisse reprend quelques couleurs en avril, selon le baromètre conjoncturel du COF publié aujourd'hui, mais aucune relance forte n'est actuellement en vue. Le baromètre conjoncturel a gagné 1,4 points en avril pour atteindre 101,8 points après 2 mois consécutifs de baisse.
Travaux de génie civil, carte bancaire, parfum. La commission de la concurrence a beaucoup enquêté l'an dernier.
Et la Comco a présenté son bilan ce matin à Berne. Elle a prononcé 2 décisions majeures pour éviter des entraves à la concurrence. Une entreprise de gestion des déchets dans la région de Bâle favorisait ses actionnaires avec des réductions de prix. Et Swisscom était en train de modifier son réseau de fibre optique pour en limiter l'accès à ses concurrents. Un cas emblématique des infrastructures de réseau qui sont souvent des monopoles. Les explications de Patrick Ducret, directeur de la Comco.
Une infrastructure, normalement, elle est construite par une entreprise, elle est utilisée par une entreprise, et puis il ne fait pas de sens pour un concurrent de reconstruire une deuxième ligne. C'est beaucoup trop cher, et puis ça ne fait pas de sens non plus d'un point de vue économique et social. Ça veut dire que si une entreprise détient une infrastructure, elle détient une ligne, un câble, il fait sens de donner accès à des entreprises concurrentes pour qu'eux puissent aussi utiliser ce câble, cette infrastructure, pour offrir quelque chose aux consommateurs.
Et dans le domaine de l'énergie, ça arrive aussi ce genre de problème de réseau?
Oui, tout à fait. On avait un cas dans le canton de Fribourg. 2 sites de production de la Migros à Courtepin et Estavayer voulaient acheter le courant, pas des entreprises électriques fribourgeoises, mais d'un autre opérateur. Et les entreprises électriques fribourgeoises refusaient l'accès à le réseau, à ce concurrent. Et la Comco a décidé non. L'entreprise électrique fribourgeoise doit donner l'accès à ce réseau pour qu'une certaine concurrence puisse aussi se déployer dans l'achat de l'électricité.
Des propos recueillis par notre correspondante à Berne, Marie Vieumier. La Comco a aussi suivi de près le rachat de Crédit Suisse par UBS. Elle a fait des recommandations pour garantir la concurrence dans ce secteur. En sport, en football, la demi-finale de Coupe de Suisse entre le FC Sion et le FC Lugano pourrait bien se rejouer au tribunal. Le président du club valaisan, Christian Constantin, a en effet demandé à l'Association Suisse de Football la répétition de la rencontre, selon le Nouvelliste. Cessé a motivé sa démarche par l'absence de la VAR lors de la rencontre de son équipe samedi soir, alors que le dispositif était disponible et actif dans l'autre demi-finale opposant Servette à Winterthur. La requête du président Constantin a été également transmise à Swiss Sport Integrity, l'organisme qui gère les cas de violation des statuts d'éthique de Suisse Olympique.
La fête du football féminin avec ou sans argent supplémentaire de la Confédération.
Message relayé hier soir par l'ASF, le canton du Valais et la ville de Sion à l'occasion de la soirée de lancement de l'Euro 2025. Philippe Varone, le président de la capitale cantonale, l'avoue, le budget des festivités n'est pas encore fixé car un soutien fédéral est encore dans la balance. Mais pas question de livrer un événement au rabais.
Il faudra peut-être faire avec moi, mais je suis plutôt confiant. Et on sait clair qu'aujourd'hui, on dimensionne nos projets avec la possibilité d'étendre, d'élargir l'offre. En ce qui concerne les infrastructures, ça c'est le rôle du propriétaire et de la ville. Mais c'est surtout pour moi ce qui me ferait chaud au cœur, c'est d'avoir quelques moyens financiers pour que la fête soit dans le stade de Tourbillon, mais aussi hors du stade, que la ville vibre et puis qu'on puisse laisser un héritage de qualité pour les footballeurs, les footballeuses, les familles qui vont venir en masse.
Et Philippe Varone était avec notre confrère de Rhône FM. Ce qui est certain, c'est que la ville de Sion n'aura pas de fan zone pour l'Euro 2025. Un fan walk est dans les plans, soit un parcours rempli d'animation de la gare au stade de Tourbillon en passant par la place du Midi. Et enfin, toujours en football, après 4 années d'absence, le Bayern de Munich retrouve ce soir le dernier carré de la Ligue des Champions avec une demi-finale 20 étoiles contre le Real Madrid. Le record Meister entretient son rêve de revoir Wembley en finale, comme lors du triomphe de 2013.
L'actu en continu sur radiochablais.ca. Bonne nuit sur Radio Chablais.
Errant.
Plan large.
Jusqu'à 13h.
Entre émotion et évasion. Plan large.
Sur Radio Chablais.
L'entretien de Florian Barbet.
Anaïs Gléron, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes danseuse, chorégraphe. On va parler avec vous d'un spectacle à la folie que vous allez produire, donner au Théâtre de l'Oriental à Vevey. C'est à Vevey qu'on se rencontre, ça a du sens, c'est là oui. Que vous travaillez en ce moment.
Exactement. Exactement. On vient d'arriver, là, on a amené le décor ce matin.
Voilà, donc au Théâtre de l'Oriental, ça va se jouer en marge, mais dans le cadre quand même de la fête de la danse, début du mois de mai chaque année. Et votre spectacle, donc, c'est du 1er au 5 mai, je le redirai, au Théâtre de l'Oriental, donc à Vevey. Vous êtes danseuse et chorégraphe, vous interprétez, vous êtes la folie, j'ai vu.
Oui.
Il y a un personnage qui doit dealer un peu avec sa folie. On en parlera un peu plus dans la deuxième partie de l'émission. Mais puis vous, c'est la folie, c'est ça?
C'est ça.
Bon, on y reviendra. Qu'est-ce que... alors moi, je vous ai dit tout de suite, je dis la danse, c'est vraiment pas mon milieu. Je connais pas ce monde-là. Vous avez l'amitié de me permettre de vous poser peut-être des questions un peu sottes. J'ai l'impression qu'il y a un cliché. Les petites filles font de la danse, les garçons font du sport, ils font des sports de combat, etc. C'est un cliché, évidemment, parce qu'à la fin, il y a des femmes qui dansent, il y a des hommes qui dansent, il y a des femmes qui font du karaté, il y a des hommes qui font du karaté. Comment ça vous est venu, à vous, la danse?
Alors, la danse, ça m'est venu, je pense, depuis toute petite. Évidemment, c'est très cliché aussi ce que je vais dire, parce que je crois que j'ai demandé à faire de la danse la première fois où on m'a emmené voir un spectacle de Béjart. Voilà, c'est fait. J'ai trouvé ça magnifique. C'est assez courant comme référence. Et puis, j'ai trouvé ça magnifique. Et j'ai voulu en faire. Après, j'étais, pour ma part, en l'occurrence, une petite fille qui avait besoin de beaucoup dépenser d'énergie et puis qui était attirée par des choses plutôt, allez, pour l'époque en tout cas, un peu masculines dans le sport. Et c'est vrai qu'au départ, ça m'a pas croché parce que je trouvais pas assez physique, en fait. Voilà. Je dis ça, j'avais 5 ans, j'avais 4-5 ans.
Vous allez dire à vos parents, je veux faire du MMA.
Du coup, j'ai fait de l'équitation. Voilà, j'ai fait 10 ans en fait à haut niveau, du coup en concours complet. Et là, j'ai chuté, j'ai fait tout un tas de choses. Je suis allée du coup jusqu'au qualification du championnat de France. Et puis en fait après j'ai eu envie de revenir à la danse parce que c'est toujours quelque chose qui m'est resté. Et puis là je m'y suis mise et je m'y suis perdue corps et âme dedans en travaillant on va dire les chemins classiques, danse classique, danse contemporaine, moderne, jazz.
C'est forcément le trajet on doit faire ses classes en somme, ses pointes devant la glace avec la barre.
Je dirais que aujourd'hui c'est de moins en moins vrai en fait. Je dirais que les frontières ou en tout cas les lignes se sont quand même déformées. Je dirais qu'à une époque c'était un petit peu la voie, oui. Aujourd'hui on trouve un petit peu de tout et je pense qu'on peut arriver à beaucoup de choses. Il y a de magnifiques danseuses Zeux qui ont des parcours qui sont pas par la voie du classique et, uniquement, ou qui n'en ont même jamais fait et qui font des magnifiques carrières. Donc je pense que ça s'est beaucoup ouvert, mais à l'époque c'est vrai qu'on avait tendance à s'inscrire d'abord au cours de danse classique à la barre et puis avec le petit tutu rose et voilà.
Je vais pas forcément le situer dans le temps parce que je connais pas bien ce monde, mais enfin j'imagine que c'est au tournant du 19e, 20e siècle qu'on a un peu cassé les codes et que tout s'est modernisé comme dans tous les autres arts. Il y a quand on est une danseuse comme vous qui en fait son métier, sa vie, il y a une tentation quand même d'aller vers les classiques, de se dire un jour je ferai le boléro de Ravel, un jour je ferai un grand ballet, le casse-noisette, que sais-je.
Alors probablement que pour d'autres c'est le cas. Je crois que ça n'a jamais été vraiment mon ambition personnelle, parce que comme je disais, j'avais besoin de choses parfois d'un athlétisme on va dire différent, et puis j'étais très très vite attirée en fait par, pour ma part, le modern jazz, mais qui avait quand même, qui demandait une grosse technique, et puis après par la danse contemporaine et notamment le floor work aussi, qui est un travail plus au sol, et donc j'ai été très rapidement traversée et attirée par ces énergies là
plus que perdu, modern jazz, oui. Danse contemporaine, c'est quoi la différence?
La différence,
ce mot contemporain dans tous les arts il est piégeux, hein, parce que contemporain c'est de maintenant, puis on parle de danse contemporaine probablement depuis le début du 20e siècle.
Clairement, oui, ouais. Clairement c'est exactement ça. Disons que c'est des courants différents. On n'a pas les mêmes pratiques déjà, rien qu'en France et en Suisse. Moi, j'ai fait mes études en France, donc pour la France, c'était le modern jazz vient plutôt de la culture américaine, avec de toute la culture de Martha Graham, si on doit donner des références, qui sont c'est une nomenclature différente en fait. Mmh. Et puis le contemporain, en tout cas celui que j'ai étudié, était une technique différente qui venait du ballet contemporain. Moi, j'ai beaucoup appris de Françoise Texier, qui était une héritière de la technique de Dominique Bagouet, qui vient. Ces gens-là venaient tous et toutes du classique, et ont développé une technique contemporaine. Sur des bases, c'est une déconstruction, exactement. Exactement. Mmh. Et du coup, pour en créer un nouveau langage. Et ça s'est jamais arrêté, ça a toujours continué, et en tout cas dans le milieu de la danse contemporaine.
Souvent dans les arts, j'en parle souvent avec les musiciens classiques par exemple, qui aimeraient bien des fois jammer un peu, faire du jazz, qui le font d'ailleurs de plus en plus, qui mélangent un peu les genres. On est dans des chapelles dans la danse ou pas? On est mis dans des chapelles quand on fait du classique, on fait du classique, quand on fait du contemporain, on fait du contemporain?
Non, je pense pas. Je pense qu'effectivement, on a une construction corporelle qui est forcément différente suivant les techniques qu'on travaille. Mais on peut passer.
Vous parlez de la construction de la musculature du corps.
Oui, bien sûr. Oui, de la physicalité, de. Bah forcément, on apprend à parler une langue. Donc, pour après en apprendre une autre ou développer cette langue, on va devoir utiliser d'autres outils, faire appel à d'autres outils pour pouvoir passer de l'un à l'autre.
Ouais, c'est très proche de la musique. Hein. Un pianiste de jazz va pas avoir le même langage des doigts simplement pour jouer du classique et inversement. Vous avez utilisé le mot athlétisme. Déjà, on parle de musculature, de corporalité. C'est quand même une discipline, la danse, qui a une marge toute fine avec le sport. Hein.
Ah ben, je pense qu'elle en a même pas.
C'est du sport.
Je pense qu'elle en a même pas. C'est
la
du
danse
sport,
aux Jeux
clairement.
Olympiques.
Ça demande un entraînement aussi intense que n'importe quel sportif de haut niveau. En tout cas, quand on veut en faire professionnellement et quand on veut aller en tout cas le plus loin possible, ça demande beaucoup d'entraînement. Ça demande d'avoir une musculature développée pour ne pas se blesser. Ça demande d'avoir une discipline. Voilà.
C'est je dirais pas comme pour les autres sports, on a des entraînements spécifiques, on va en salle tout bêtement.
Ça peut, oui, ouais. Ça peut arriver, oui. Ouais, oui, dans certaines en tout cas compagnies ça arrive qu'il y ait des accompagnements plus spécifiques sportifs avec par exemple du pilates ou avec effectivement des machines en salle pour des renforcements musculaires bien spécifiques suivant les corps.
Qu'est-ce que ça prend pour vous cette discipline-là? J'imagine qu'il y a des moments où vous êtes en représentation, donc peut-être que là l'entraînement passe un petit peu au deuxième niveau. Le reste du temps, c'est quoi? C'est tous les jours
L'idéal, c'est tous les jours. Ouais. Non, l'idéal, c'est oui, en tout
puis
cas,
après,
tous les jours
vie,
de la
quoi.
Semaine, et après, il y a la vie, c'est ça. Non, c'est un entraînement quotidien, c'est assez, en tout cas pour ma part, c'est assez indispensable. Ouais.
Une hygiène.
C'est une hygiène, et puis c'est entretenir comme un musicien va entretenir ses gammes, pour nous c'est la même chose, donc c'est entretenir son vocabulaire, c'est entretenir le corps, c'est voilà, continuer à le travailler. Après on le travaille différemment avec le temps, mais oui.
Vous dites vocabulaire.
Oui, bien sûr, c'est un vocabulaire, c'est une façon de parler, de s'exprimer, qui passe par la gestuelle du corps, par le mouvement. C'est un lexique. Ouais.
Qu'est-ce que ça veut dire la fête de la danse dans ce monde qui est le vôtre? On sait que c'est là, c'est pas très grave, c'est pas très important, c'est symbolique, c'est au contraire un coup de projecteur intéressant sur votre travail.
Bah, c'est clair, parce que...
C'est européen, hein, il y en a partout dans ce mois de mai.
En tout cas, c'est un événement national sur la Suisse. Et puis, c'est un événement très important. Bien sûr, c'est une occasion de montrer le travail de beaucoup d'artistes. C'est une grande fête. Mais au-delà de ça, on est aussi dans des métiers qui ont eu et longtemps et qui continuent d'avoir des fois des difficultés de reconnaissance. Donc c'est aussi important qu'on puisse le représenter, le célébrer et pouvoir le montrer, permettre aux compagnies et aux artistes de présenter leur travail, parce que c'est pour ça qu'on s'entraîne tous les jours.
Pourquoi vous parlez de difficultés de reconnaissance? Moi, il me semble que la danse, au contraire, a une histoire millénaire. Elle est née en même temps que l'humanité. Probablement, il y a des liens avec la religion. Énormément d'écrivains, de peintres, d'artistes se sont intéressés à la danse, peut-être sans la rationaliser, mais en y voyant le moyen d'expression ultime. Et il me semble qu'au contraire, ça fait partie des arts reconnus par la Grèce antique. Hein,
c'est vrai, ça c'est l'évidence.
Maintenant, c'est pas.
Et après, il y a la vraie vie. Après, il y a la vraie vie qui fait que voilà, ça a quand même toujours été. Il y a eu quand même régulièrement voilà des luttes pour faire reconnaître auprès des institutions que c'est un métier qu'il est très exigeant et voilà.
C'est plus difficile aussi d'élargir un public, peut-être. Hein. Il y a un public mordu vraiment de la danse. On va peut-être pousser la porte d'un théâtre par curiosité, parce qu'on connaît l'auteur. La danse, c'est plus compliqué.
La danse, c'est parfois plus compliqué, parce que je pense qu'il y a, à certains, sur un certain plan, c'est plus abstrait. C'est une forme plus abstraite. De compréhension aussi, donc
il faut donner un petit livret avec le vocabulaire,
voilà,
hein,
c'est ça, il faut donner le lexique, le dictionnaire. C'est le dictionnaire. Non, je pense qu'il y a une esthétique qui plaît, voilà. Après effectivement parfois ça donne des objets plus abstraits, et puis mais là on parle d'un certain type de danse ou de spectacle. Il y a énormément de choses, et encore plus pendant les fêtes de la danse, et je pense qu'il y en a pour tout le monde et pour tous les goûts, et je pense que ça peut attirer beaucoup de monde.
à la Folie. On va parler de ce spectacle que vous allez donner du 1er au 5 mai, donc dans le cadre de cette fête de la danse au Théâtre de l'Oriental qui vous accueille. On en parle dans la deuxième partie de cette émission.
Retrouvez vos rendez-vous quotidiens durant la nuit.
Long, large.
Jusqu'à 13h.
Entre émotion et évasion. Plan large.
Sur Radio Chablais.
L'entretien de Florian Barbet.
Anaïs Gléron, on se retrouve sur les quais, hein, au bord du lac à Vevey, tout proche du Théâtre de l'Oriental, où vous allez donner ce spectacle à la Folie du 1er au 5 mai, donc dans le cadre de la fête de la danse, sous un petit soleil de fin avril, hein, qui pourrait être un soleil de janvier. Mais bon, on espère que l'ambiance sera plus chaude au moment où votre spectacle sera donné. Spectacle pluridisciplinaire, c'est ce que dit le flyer. Ça dit pas danse, le mot danse n'est pas là. Qu'est-ce que ça veut dire?
Pluridisciplinaire, déjà, ça veut dire qu'on a avec nous un musicien et une musicienne live, Jean-Samuel Racine et Laurence Crevoisier, qui nous accompagnent en fait tout au long du spectacle et qui a la particularité, c'est qu'ils jouent derrière le public. Donc ils accompagnent en fait l'action en direct en fonction de ce qu'ils voient. Donc il y a bien sûr des choses qui sont plus ou moins. Il y a une part d'improvisation, mais bien sûr il y a une structure, voilà. Mais les timings et la durée en fait de toutes ces séquences, c'est intrinsèquement lié entre ce qui se passe sur scène au niveau du mouvement et la musique.
Ça c'est pas banal, hein. C'est souvent, en tout cas, j'avance avec des pincettes, hein, mais dans la danse contemporaine, on a souvent une bande de musique, une exactitude musicale qui est là par la bande. Peut-être quand on va dans les grands ballets classiques, il y a l'orchestre qui est là, mais là aussi, c'est très réglé. Hein. La part d'impro, elle est un peu dangereuse pour vous, elle est excitante.
Elle est très intéressante. Elle est très exigeante parce que elle demande qu'on se trouve forcément. Donc, faut qu'on se trouve aux bons endroits, au bon moment. Donc, alors il y a des fois, on a des repères. Hein, on a mis des repères parfois visuels, mais c'est un peu en alternance. Parfois, c'est la danse qui est plus à se caler sur la musique, et parfois c'est plus la musique qui se cale sur la danse. C'est vrai que ça peut créer une zone de risque, voilà, une zone de risque où d'un coup on...
Mais qui donne l'excitation.
Oui, clairement, ouais. Clairement. Mmh. Puis c'est un timing qui est du coup très interne et c'est très intéressant, c'est un peu se connecter à l'horloge interne en fait.
Bon, vous avez compris, hein, depuis le début de cet entretien, que vous parlez d'une espèce de bourru rationnel qui a besoin de comprendre les choses. Les spectacles de danse, c'est souvent parler de lexique et de vocabulaire, hein, si on l'a pas, c'est souvent difficile. Alors moi je disais toujours, je peux aller à un ballet si je connais la musique et si j'aime la musique. Je peux parler du Boléro de Ravel par exemple, ben voilà, je la connais comme tout le monde et puis je l'apprécie, donc je peux grâce à cette musique qui ne me déstabilise pas, je peux entrer et me laisser aller à l'émotion de ce que je vois. C'est plus compliqué avec la danse contemporaine, hein, souvent.
Ça dépend. Ouais. Ça dépend, mais effectivement, il peut y avoir des de la même manière, du coup, faire appel à des musiques plus contemporaines. Mais je pense que voilà, on trouve toujours. Toujours une connexion avec le public quand même, on cherche quand même toujours à être compris, c'est quand même l'objectif final, c'est que le public qui est là puisse apprécier et puisse se reconnaître ou s'y retrouver. Donc il y a forcément une part d'abstraction, une part de
qui fait appel à l'émotion, qui fait appel au ressenti, ouais.
Il faut un peu se laisser aller.
Bon, on va se laisser aller, mais vous voulez raconter une histoire quand même. Hein.
Quand même.
À la Folie, vous observez, donc je le disais, hein, vous êtes la Folie, vous êtes deux danseurs sur scène. Il y en a un qui joue un personnage qui est là, qui est reconnaissable. Hein. C'est
Renaud
un être
Vizère,
humain,
oui.
Voilà, en l'occurrence c'est un homme. Et puis il y a un personnage caché qui est vous, qui apparaît, c'est ce que j'ai lu, hein, j'ai pas vu le spectacle, mais qui apparaît pour montrer qu'on a tous des petits moments d'absence, de folie. De bizarrerie.
C'est ça, c'est un peu son être intérieur en fait. C'est celui, je dirais que c'est souvent celui qu'on montre pas forcément en société ou dans des contextes où qui demandent une certaine norme sociale. Et puis c'est celui finalement qui peut faire un peu ce qu'il veut, comme il veut, même les choses qui ne se font pas.
C'est un peu le mauvais génie, le Jimmy.
C'est un peu le mauvais génie, oui. Oui, oui, c'est
vous,
un peu.
Vous parlez des maladresses sociales. Moi, ça m'a beaucoup parlé, ça, c'est clair. Hein. On peut avoir des gestes, on peut avoir des moments où on ne se contrôle pas forcément, on n'y pense pas, et puis on se trouve tout à coup dans une situation un peu de malaise parce que les autres nous observent.
Exactement. Mais ce qui est intéressant dans la manière, en tout cas, dont on a essayé de l'amener sur scène, c'est que cette maladresse sociale, elle vient du décor, en fait, et des objets qui entourent le personnage principal, et pas forcément du personnage principal. C'est-à-dire qu'il se retrouve dans son environnement intérieur, et puis le canapé ou le banc sur lequel il va s'asseoir ne va pas vouloir qu'il s'assoie. Donc,
rébellion des objets.
C'est une rébellion des objets, exactement. Mmh. Et les objets, du coup, prennent vie, en fait, comme ça. C'est plus l'espace intérieur qui prend vie et qui fait appel à la fois, parfois, à notre imaginaire et en même temps, effectivement, à ces situations où rien ne se passe comme on voudrait que ça se passe.
Alors, j'ai vu des extraits, c'est souvent assez cocasse. Hein.
Oui.
Ça, on rit.
Ouais, j'espère. Oui, en tout cas, moi, j'ai beaucoup ri en le faisant. En le faisant ou en l'essayant. Et puis après, au-delà de ça, c'est aussi une relation un petit peu plus loin, c'est une relation à la folie. À la folie plus générale ou aussi parfois plus clinique. Simplement, j'avais pas envie d'en parler de manière dramatique et j'avais envie de l'évoquer plus par amour, en fait, de ça.
On peut se sentir déphasé parce qu'on a un petit moment de malaise, comme je l'évoquais. On peut aussi
Exactement.
Se sentir déphasé de façon clinique et douloureuse parce qu'on a un trouble du spectre autistique, par exemple, parce qu'on a j'ai pas envie de dire pathologie, parce qu'avec l'autisme, il faut être très prudent et je comprends cela, mais quand on a une condition propre qui fait qu'on est déphasé par rapport à ce que
Clairement.
La société attend de nous.
Et puis, plus personnellement, pour le dire rapidement, moi j'ai grandi en fait avec une personne qui avait des troubles très forts et puis c'est vrai que les situations finalement avec le recul sont aussi sont très cocasses quand même de l'extérieur aussi. Il y a ce phénomène d'imprévisibilité, c'est-à-dire que une journée qui est censée se passer normalement, il peut quelque chose peut surgir en plein milieu de cette journée, on ne sait jamais quand, on ne sait jamais à quel moment. Et puis pour la personne qui le vit, c'est une perception de la réalité qui est déformée, parfois.
Ça fait des souvenirs, parfois douloureux, parfois cocasses. Ouais.
Oui, c'est une forme d'hommage, parce qu'au final, les choses, elles sont ce qu'elles sont. Et on doit de toute façon aller avec à un moment ou à un autre.
Vous avez la tentation, vous l'avez peut-être fait d'ailleurs dans des spectacles précédents, d'ajouter la parole. Du texte, voilà, c'est encore le vieux rationnel qui parle. Expliquez-moi ce qui se passe.
j'aime beaucoup le texte. Ça m'est arrivé qu'on me le demande en tant qu'interprète. Et j'ai toujours beaucoup apprécié faire cet exercice. C'est un exercice que j'ai envie de développer plus prochainement, on va dire. Pour l'instant, c'est pas encore venu complètement, mais il y a des bribes qui s'installent.
Ça va être difficile de mélanger la performance physique qu'exige le ballet avec, j'ai l'impression que ça doit être deux hémisphères du cerveau qui travaillent différemment. Hein, d'un côté, l'hémisphère du corps, de l'expression, de la sensibilité, de l'émotion, puis de l'autre, si on doit tenir un texte, c'est la rationalité, ça va être difficile de mélanger les deux.
C'est très intéressant, en fait. D'un coup, ça complexifie les choses, et puis c'est une contrainte supplémentaire, puis il faut quand même dire ce qui est, on adore la contrainte dans notre métier. Et ce qui est très intéressant, c'est que pour le danseuse, en fait, on va partir du corps pour aller vers la voix, et puis le théâtre, c'est la voix qui amène le corps. Et j'aime beaucoup ces deux phénomènes et ces deux approches, en fait. Je trouve que c'est extrêmement intéressant à explorer. C'est évidemment très difficile, un exercice très difficile, mais en fin de compte, quand on rentre dans un personnage ou quand on se met dans un état, on puise dans ce qu'on sait faire, et du coup le corps finalement image ce qu'on dit. Même là, quand je parle, finalement j'ai des gestes avec mes mains parce que j'ai envie de me faire comprendre et de me faire d'entendre, et du coup j'y amène le corps, et en fait c'est
je le fais aussi. Exactement. Je n'ai pas l'entraînement et de discipline.
Exactement.
Je le fais aussi. Bon, alors on va redire, hein, donc à la folie, c'est ce spectacle à l'Oriental. On va donner le nom de votre complice, hein, Renaud Vizer. On a parlé de musique. Il y a deux musiciens donc, qui vous suivent. On l'a bien compris avec cette part d'improvisation. Il y a aussi de la vidéo.
Exactement. Il y a de la vidéo avec, qui a été réalisée par Bastien Genoux. Et là, on est allé faire un petit tournage dans le paysage des Landes pour ces vidéos et pour nous garder en connexion avec un espace extérieur. Et ça, c'était assez important pour moi puisque le projet a démarré en fait un peu après Covid et on était encore confinés. Donc, on allait en fait faire nos premières explorations dans des parcs.
Dans la nature, parce que c'est là qu'on pouvait se réunir.
Et sur les plages. Et du coup, ça prend tout son sens parce qu'on parle de situations incongrues. Où on se retrouve à être un peu en malaise. Puis moi, j'essayais avec mon parasol à l'époque, je déambulais en fait sur la plage alors que les gens allaient se baigner, quoi. Et c'était très chouette.
Bon, ça c'est la partie préparation, oui. Vidéo, musique, expression, voilà. De la danse sur scène. On entend bien du coup le mot pluridisciplinaire, hein, que vous utilisez. On va terminer sur la compagnie. Vous avez une compagnie donc oui. avec Renaud Vizer.
Non. La compagnie, en tout cas Sada. La compagnie Sada. Là, je suis en tout cas représentante artistique sur ce projet-là. Et puis la compagnie Sada, elle est née en 2020.
Basée à Lausanne.
Basée à Lausanne, exactement. Et c'est une compagnie de danse, enfin de danse, en tout cas plutôt pluridisciplinaire, voilà.
C'est important l'idée de la. On voit très souvent ça avec le théâtre. Hein, on a vite envie de créer un groupe, de pouvoir monter ses propres projets. Dans l'univers de la danse, j'imagine, c'est un peu la même chose et que ce stade-là, c'est le stade de la compagnie. On commence à travailler de façon autonome.
Oui. C'est le stade, en tout cas, où on a envie de réaliser ou d'exprimer des choses et puis d'essayer aussi des choses qui nous sont propres. Je pense que c'est cette histoire du vocabulaire qu'on donnait tout à l'heure, c'est-à-dire on apprend pendant très longtemps un vocabulaire et puis finalement c'est comme quelqu'un qui a fait ses études de lettres et puis qui écrit un livre au bout du compte.
Elle le fait seule
et nous on le partage parce qu'on a besoin des autres pour créer. On peut pas faire ça tout seul et aussi parce qu'il y a énormément de médiums, de choses qu'on voit pas derrière un spectacle, toute la technique, tout l'aspect technique du spectacle, les lieux. Donc c'est normal en fait qu'on aille chercher d'autres artistes pour collaborer.
Bon, la fête de la danse un peu partout en Suisse romande, dans notre région, je crois qu'il y a guère que Vevey, hein, qui est très active en tout cas dans cette fête de la danse. Mais ça tombe bien puisque votre spectacle est là pour la représenter à la folie, donc à voir au Théâtre de l'Oriental à Vevey du 1er au 5 mai. Et voilà, c'est à 20h mercredi, jeudi, vendredi, le samedi et le dimanche à 17h. Merci à vous.
Samedi aussi à 17h, pardon. Samedi et dimanche à 17h.
Oui, samedi et dimanche à 17h à l'Oriental, à Vevey. Merci à vous, Anaïs Garon.
Merci beaucoup.
Radio Chablais, programme de nuit. Radio Chablais.
Qu'est-ce que ça fait de bien de se détendre?
La minute hawaïenne, c'est comme la pizza, mais en radio.
J'ai pas compris.
Ah, Naël, les années 90, c'était bien, hein?
J'étais pas né dans les années 90.
Ah, t'étais né quand?
Bah, en 2009.
Donc en fait, tes années 90 à toi, c'est les années 2010?
Ouais.
Ok, t'étais où, Torse, par exemple?
À ce moment-là, j'avais 5 ans. J'étais en Italie chez ma demi-sœur.
Crima?
T'es en train de me dire que les années 14, c'est comme 2024?
C'est vrai qu'il y a des similitudes.
T'as vu la musique qui sort dernièrement? C'est tout de l'âme.
Ouais. Je suis d'accord, mais tu veux que je fasse quoi? Je bosse dans une radio.
Que tu diffuses un titre de 2014.
Ok. Fade Out Lines de The Avenger et Phoebe Kildare, ça ira?
Ouais, ça va le faire.
Tizi Avener pour taper du pied. T'as bon goût, gamin.
Merci.
La minute hawaïenne, c'est comme la pizza, mais en radio.
Bonne nuit sur Radio Chablais.
Le bon plan de Cyril vous est offert par Bliblablo de Net Plus et ses services internet mobile et TV. Bliblablo, le multimédia d'ici.
Se nourrir, s'habiller, se distraire ou se meubler.
Plan de Cyril.
sur Radio Chablais.
L'orchestre d'Aigle organise un prochain concert à Olon. Un concert très très particulier, l'orgue dans toute sa splendeur. On en parle avec la présidente de l'orchestre d'Aigle, Kimberly Kastenberg. Bonjour.
Bonjour.
L'orgue dans toute sa splendeur. Alors, déjà...
alors ce serait au temple réformé de Olon.
Mais pourquoi, alors à la place de l'Hôtel de Ville, pourquoi ce choix? Vous avez dû vous déplacer là-bas, mais c'est justement pour l'orgue, non, me semble-t-il?
Oui, c'est un choix musical. J'imagine qu'un de nos... Enfin, le prof qui est prof de musique à l'école de musique d'Aigle, qui a choisi... voilà, moi, j'étais pas dans la décision. Donc, je sais qu'il y a un bel orgue et je me réjouis de notre concert ce samedi.
Alors, ce samedi, voilà. Justement, on l'a dit à Olon, pour profiter de cet orgue très particulier, l'Orchestre d'Aigle, qui est d'ailleurs un des plus vieux orchestres amateurs du canton de Vaud, si ce n'est le plus, hein, en 99, il y a le poids de l'histoire quand même un peu là derrière.
Ah oui, alors absolument, on doit se réinventer tout le temps et puis trouver des nouveaux programmes, et là on a deux organistes, donc comme j'avais dit, c'est l'école de musique d'Aigle, M. Pesandet, qui est prof, et l'élève, M. Favreau, qui jouera aussi une pièce en tant que soliste, donc c'est vraiment super, et c'est vrai que nos concerts offrent une grande variété. Vous pouvez tout consulter sur notre site, si jamais, pour la suite, parce qu'on a des gros concerts qui
arrivent. Ouais, c'est ça, alors j'allais dire, orchestredaigle.ch, donc l'orgue dans toute sa au temple à Olon, et puis on se retrouvera, hein, Kimberly, pour parler une fois plus longuement, justement, de l'orchestre d'Aigle, les 125 ans.